Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 2 ans et demi que j'ai comme un incendie destructeur dans la bouche qui n'est pas guéri. C'est destructeur comme l'est l'incendie qui est en train de détruire la Grèce actuellement. Des belles petites îles de la mer Égée, là où étaient les touristes qui sont obligés de partir. Mais plutôt qu'un incendie destructeur dans ma bouche, j'aimerais avoir un feu dans mon cœur pour apporter ce que j'ai apporté. Il y a des choses qui vont être assez radicales, mais nécessaires. Vous êtes d'accord? Un feu. Un feu qui construit. Un feu qui change les vies. Comme les langues de feu qui sont descendues le jour de la Pentecôte et qui ont permis aux gens de parler des merveilles de Dieu et de communiquer avec autorité et puissance l'évangile de Dieu. C'est ce feu dont nous avons besoin. Nous avons parlé de la Grèce. Eh bien, nous allons aller en Grèce. Il y a bien longtemps, l'apôtre Paul et son équipe est arrivé dans une église, dans une ville, Thessalonique, en Grèce. Cet épisode nous est raconté dans le livre des Actes, à partir du chapitre 17. C'est un passage que je ne lirai pas. Par contre, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans la première épître aux Thessaloniciens, la ville de Thessalonique, Thessaloniciens, où il y a une église, une très belle église, comme celle de Seloncourt, comme celle de la Porte Ouverte à Mulhouse peut-être, comme celle d'Emelka, avec ce prédicateur remarquable, Yvan Carluaire. Il n'a même pas besoin de notes. Il prêche comme un comédien. Et c'est une précision. Eh bien, l'église de Thessalonique, c'est quelque chose. Il s'est produit un événement extraordinaire. Beaucoup d'habitants se sont convertis à Jésus-Christ. Lisons, 1 Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée saluent l'église des Thessaloniciens. Dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soit accordé. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, écoutez bien, votre foi agissante, votre amour actif, et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisis, vous qui l'aimez. En effet, l'évangile que nous annonçons, nous ne l'avons pas apporté en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus à votre tour, écoutez bien, des modèles pour tous les croyants de la Macédoine. Vous savez qu'aujourd'hui existe la Macédoine du Nord, mais à l'époque, la Macédoine, c'était bien plus vaste, c'était une province romaine. C'était tout le nord de la Grèce, en quelque sorte. De la Macédoine et de l'Achaïe, ou l'Achaïe. Ça, c'était plutôt la province romaine du sud de la Grèce actuelle. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe. Mais encore, la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu. En tout lieu, c'est tout le bassin méditerranéen. C'est toutes ces églises qui avaient été établies à partir de Jérusalem. En tout lieu. Et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte en effet, à notre sujet, quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Quelle belle description de cette église de Thessalonique. Aujourd'hui, on dira Salonique. Thessalonique, c'est vraiment le nord. Ça donne sur la mer Égée, cette mer qui sépare d'ailleurs la Grèce de la Turquie. Il y a une multitude de petites îles. Et ça rappelle tout simplement, dans une vision, cette voix du Macédonien que Paul a entendue et vue. « Viens, secours-nous !» Et Paul a franchi le pas. Il a commencé à évangéliser l'Europe, donc la Grèce. Il a visité plusieurs villes. Et là, il va visiter l'église, la ville de Thessalonique. Thessalonique, c'est un port très actif. On y va, on y vient. C'est un peu comme le Marseille d'aujourd'hui. C'est très cosmopolitain. L'évangélisation ne sera pas sans difficulté. Ça nous a raconté dans le livre des Actes. Comme d'habitude, c'est la stratégie de Paul. Pendant 3 sabbats, il prêche, il lit l'Évangile, et il dit, voyez-vous les Juifs, ce Messie dont il est question, c'est Jésus mort et ressuscité. Il explique. Et le résultat de cette évangélisation, il nous est dit que un peu de Juifs furent convaincus de la parole de Paul, mais qu'un grand nombre de païens crurent au Seigneur Jésus. Et ça s'est ajouté également un nombre de femmes de haute distinction, comme vous, mesdames. Alors, vous voyez un petit peu cette église. C'est une variété à la fois culturelle, sociale, raciale. Peut-être il y avait converti des soldats romains d'origine païenne, puisqu'un grand nombre de païens s'étaient convertis. Peut-être ces sœurs de haute distinction, elles rencontraient dans l'assemblée l'esclave, le serviteur qui était là à son service depuis des années, et tout d'un coup, la relation était différente. Il devenait l'esclave et cette femme de haute distinction, des frères, des sœurs en Christ. Elles arrivaient à cohabiter ensemble, hein, et à vivre cette communion. Quelle belle église! Vous êtes bien assis? Vous êtes assis sur des chaises où il y a 4 pieds, n'est-ce pas? Une vie chrétienne authentique et qui nous donne envie, c'est celle que vivaient les Thessaloniciens. Et c'est là que j'arrive aux 4 points qui vont faire l'essentiel de mon message. Qu'est-ce qui s'est passé chez ces gens-là? Premièrement, ils se sont convertis à Dieu. Vous vous dites, les chrétiens, mais nous aussi on est convertis. Hein? Il y a beaucoup d'entre nous qui peuvent dire le jour, l'heure, la seconde où ils se sont convertis. Il y en a beaucoup parmi nous qui peuvent dire, mais je ne sais pas quand je suis converti. Ça s'est fait sur une période assez longue. Mais l'essentiel, c'est d'être vraiment converti. C'est de s'être tourné vers Dieu pour utiliser d'autres versions de la Bible. Ça, c'est le premier pilier de la chaise. Vous êtes bien assis. Votre chaise est solide. Le deuxième pilier, c'est que dans cette conversion, ils ont décidé d'abandonner les idoles. On va s'y arrêter. Le troisième pilier, c'est que cette conversion, cet abandon des idoles les a conduits à servir le Dieu vivant et vrai. Troisième pilier de votre chaise. Et enfin, celui qui est souvent négligé, je le trouve dans nos églises aujourd'hui, ils attendent le retour de Jésus, qui va les délivrer de la colère à venir, nous dit notre texte. On y va avec ces quatre points? Vous êtes prêts? Personne ne dort? Quelle merveilleuse église! Quelle solidité d'église! Quel amour actif, comme on l'a vu! Quelle foi persévérante et active! Parce qu'il y avait ces quatre points qui avaient été vraiment assimilés. Alors peut-être parmi nous, nous allons nous dire, mais Luc, nous on connaît ça depuis longtemps. Moi je suis converti depuis 50 ans, 60 ans. Eh bien nous allons aussi parler non seulement de cette expérience toute fraîche que viennent de faire ces Thessaloniciens, parce que c'est tout frais, mais parler de nous-mêmes, chrétiens, où ce n'est plus une expérience peut-être toute fraîche. Et peut-être essayer de faire un petit examen, comme Paul nous le conseille, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Se convertir, c'est l'essentiel. Je me suis converti moi-même à Dieu en 1967, même 1966. C'est une année importante. Et cela a changé complètement ma vie. On pourrait traduire « se tourner vers Dieu ». Se convertir, en fait, ça veut dire faire un demi-tour à 180 degrés. Je crains quelquefois, quand je rencontre dans les églises des chrétiens, qu'ils ont fait un demi-tour seulement à 140 degrés. À 100 degrés. La conversion, c'est un demi-tour complet vers le Dieu qui sauve en Jésus-Christ. Par nature, à cause de cet héritage qu'est le péché, nous avons tendance à nous détourner de Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu. Beaucoup de Français, Dieu ne les intéresse pas. Leur culte du dimanche matin, c'est tout à fait autre chose, mais ce n'est pas un culte à Dieu. Quand on fait notre petit trajet entre Dombenoît et Brognard, il y a en plein milieu du trajet toute une structure de dressage de chiens, avec plein de voitures. Et nous, on va au culte, et on se dit, Elisabeth et moi-même, ben c'est bien là leur culte. Dressage de chiens, un jour de sabbat ou de dimanche. Par nature, l'homme, oui, veut se détourner de Dieu. Il a besoin de se convertir, se tourner vers Dieu. Il a besoin de changer de comportement. Il a besoin de faire un volte-face qui implique deux choses bien précises. Un volte-face vis-à-vis du péché. Il ne veut plus du péché. Il veut, comme Dieu, détester le péché. C'est pour ça qu'il nous est dit « Ayez le péché en horreur », nous dit l'apôtre Paul. Le péché, ça prend toutes sortes de formes, vous le savez bien. Il veut faire un volte-face dans le sens aussi que désormais, puisqu'il ne veut plus du péché, qu'il en a la haine, eh bien il va avoir de l'amour pour Dieu. Il va se convertir, il va se tourner vers Dieu. Il va décider de mettre Dieu le premier dans sa vie. Quel changement! Vous avez fait ça? Vous en souvenez? C'est encore frais? dans toute la Bible, frères et sœurs, et surtout au peuple d'Israël, Dieu supplie l'homme de se convertir. Dieu pourrait se dire, l'homme il est tellement rebelle, de toute façon il veut pas de moi. Dieu pourrait se dire, l'homme est tellement rebelle, de toute façon il veut pas de moi, je laisse tomber. Allez, je n'en reparle plus. Non, 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 Dieu supplie, supplie, supplie constamment le peuple d'Israël, quand il s'était éloigné de lui, de se convertir. Et Dieu aujourd'hui encore supplie les hommes de se convertir. Par exemple, dans le livre des Proverbes, chapitre 1er, verset 23, « Tournez-vous pour écouter. » Ou encore dans le prophète Ésaïe, au chapitre 31, verset 6, « Revenez à celui dont on s'est profondément détourné. » Mais il s'adresse à Israël, à son peuple, à ce peuple avec qui il a fait l'alliance. Ou encore dans Ézéchiel, « Convertissez-vous donc et vivez. » Dieu nous supplie, il supplie l'être humain de se convertir, de se tourner vers lui. Et ça, nous le voyons dans toute la Bible. C'est l'aspect de responsabilité de nous tourner vers lui, puisqu'il nous supplie de le faire. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, la conversion est aussi un miracle de Dieu. C'est Dieu qui produit la conversion. Si nous pouvons nous convertir, c'est parce que c'est Dieu qui fait le travail par son Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu. Elle est magnifique. Elle s'est manifestée parmi nous, je l'espère pour tous, que nous nous sommes tournés vers lui. Trois éléments qui est très important, c'est que dans la conversion, il y a un enjeu personnel extrêmement fort. Et oui, par exemple, nous voyons que Jésus dira, « Si vous ne vous convertissez, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Qui c'est qui n'a pas envie d'entrer dans le royaume de Dieu parmi nous ? Qu'il lève la main. Si vous ne vous convertissez, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est une parole forte de Jésus. C'est ce qu'ont expérimenté ces Thessaloniciens. Oh, ça a été fabuleux. Paul en a été le témoin, et puis cela lui a été rappelé par Timothée qui lui a donné des bonnes nouvelles. Cette épître a été écrite environ 50-51. C'était du tout frais. Quelle église ! Est-ce qu'ils en sont restés là ? Cette conversion a produit un deuxième phénomène qui est particulièrement spectaculaire dans une civilisation gréco-romaine où il y avait un polythéisme exacerbé. C'est-à-dire les gens, ils adoraient beaucoup Dieu, Zeus et toute la compagnie là. C'était leur Dieu. La lune était leur Dieu. On a parlé de la lune tout à l'heure. Il y avait plein de dieux. Il y avait toute une galerie de dieux. Il y en avait tellement qu'on ne pourrait même pas s'en rappeler. Ils ont abandonné ces dieux-là. C'était des idoles. Parce que quand ils ont été convertis, ils ont compris que ces anciens dieux, entre guillemets, avec un petit démium, ce n'étaient que des choses éphémères, périssables, vaines. Frères et sœurs, ne nous arrive-t-il pas nous aussi, les convertis, de nous faire de nouveau attraper par des idoles ? Oh, bien sûr, nous n'avons pas de dieu de fer, nous n'avons pas de dieu de pierre, nous n'avons pas de dieu d'un métal quelconque. Mais notre société contemporaine est pleine de dieux. Quand vous êtes dans une salle d'attente, pour aller consulter un médecin, quand vous êtes dans un moyen de transport, vous voyez constamment les gens qui ont leur Dieu devant les yeux, qui peuvent palper, qui peuvent retourner, le fameux smartphone. Ça m'horripile quelquefois. C'est le Dieu d'aujourd'hui. C'est le Dieu des réseaux sociaux où des choses abominables sont envoyées et utilisées. Entre parenthèses, je reviens un petit peu en arrière. Cette église de Thessalonique était tellement connue partout, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de téléphone. Pourtant, on savait la qualité de cette église-là et la beauté. Des dieux. Albert, il n'y a pas longtemps, nous en a parlé, le jeune homme riche. Il avait tout fait en ce qui concerne les commandements d'ordre social. Il y avait un dieu qu'il avait gardé en lui, le dieu de l'argent, la richesse. C'est pour ça qu'il est parti tout triste. Le matérialisme, l'argent. Les chrétiens peuvent être influencés par le matérialisme et l'argent. On a une jolie petite maison, on en veut une plus grande. On a une toute petite voiture, on en voudrait une plus moderne. Etc., etc. Mais le Dieu d'aujourd'hui peut être aussi un Dieu idéologique. Vous savez qu'il y a une période pas très lointaine où le Dieu, c'était le marxisme, l'héléninisme. C'était la philosophie qui allait permettre vraiment de changer le monde, d'apporter l'égalité, la fraternité. C'était un Dieu destructeur parce qu'on a vu comment les choses se sont terminées. Vous savez qu'il y a un Dieu qui est terrible aujourd'hui, qui vient des États-Unis, c'est le wokisme. Vous avez entendu parler de ce que c'est que le wokisme ? Ah ben, je vous conseille de vous y intéresser. C'est cette idéologie qui consiste à ce que les gens perdent leur identité d'homme ou de femme, qui consiste à amener qu'on veut changer même de sexe. Ça vient des États-Unis et nos enfants dans les écoles sont touchés par des philosophies comme cela. Intéressez-vous. Quel est ton Dieu, frère ? Quel est ton Dieu, ma sœur ? Abandonner les idoles. Être radical. Je vais vous faire une confidence personnelle. J'ai un peu honte de la faire, mais c'est pour que nous comprenions. À cause de ce mal dans ma bouche, il y avait une chose qui me soulageait dans mes repas, c'était de boire un peu de vin rosé. Ça me permettait en quelque sorte d'avoir moins mal. Ça devenait presque une addiction. Mais Dieu m'a parlé par sa parole. D'abord, il me disait, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme a semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Puis Dieu me disait, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. N'est-ce pas une parole d'Éphésiens ? C'est-à-dire, c'est du désordre. Alors j'ai lutté. Quelquefois même, Dieu me parlait tellement que je ne terminais pas la bouteille, je la jetais dans l'évier. J'ai compris qu'il fallait que je sois radical. Il y avait une addiction liée à ce mal terrible de l'incendie dans ma bouche. J'en suis pas plus autant guéri, mais je suis guéri de cette addiction. C'était une idole. Il fallait l'abandonner. Il fallait être radical. Frères et sœurs, il y a des choses où il faut être radical. Jésus nous dit que si nous n'arrachons pas l'œil, la jeter loin de nous, ou si nous ne coupons pas notre main pour la jeter loin de nous, eh bien, nous perdons notre âme dans la gêne. Les disciples de Jésus-Christ doivent être quelquefois radicaux sur leurs points faibles. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas du tout boire d'un bon petit vin rosé, mais je dis là où il y a des tentatives de l'ennemi, d'addiction, d'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est tout simplement faire de telle ou telle chose, de telle ou telle idéologie, une panacée. De telle manière qu'on ne peut plus s'en passer. Vous comprenez ? Il y a des chrétiens qui ont des panacées. Je suis persuadé qu'il y a des chrétiens qui ont des addictions. Le converti, c'est celui qui abandonne les idoles. Dans les 10 commandements, Dieu dit lui-même au peuple d'Israël, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Pas d'autre Dieu devant ma face. Essayons de réfléchir. Y aurait-il d'autres dieux devant ma face qui remplacent Dieu ? Réfléchissez chacun. Continuons à réfléchir. Dieu est suffisant. Il est amour, il est juste, il est saint, il est puissant. Mais c'est les belles choses que nous a racontées tout à l'heure notre frère, hein ? C'est tout Dieu. C'est pour ça qu'il a le droit de dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est moi seulement. Abandonnez vos idoles. Il y a dans l'histoire de l'Église des belles choses. Au XIIe siècle, il y a un homme qui s'appelle Pierre Valdo. Qui connaît Pierre Valdo ? Pierre Valdo, c'était un riche marchand de Lyon. Et justement, il se convertit. Il se convertit et il abandonne ses idoles, c'est le cas de le dire. Il va vendre toutes ses richesses, tous ses biens. Tout vendre. Il va faire l'inverse du jeune homme riche. Et va se développer un ministère de prédicateurs itinérants partout. C'est ce qu'on a appelé le mouvement des pauvres de Lyon. Mais ils ont été tellement persécutés qu'ils ont été obligés de se réfugier en Italie dans les vallées vaudoises. Et ça existe encore aujourd'hui, ces évangéliques-là, d'origine de Pierre Valdo, dans certaines régions. Pourquoi ? Parce qu'ils sont revenus à la... Pierre Valdo est revenu à la Bible. Il a compris qu'il fallait se convertir. Il a compris qu'il fallait abandonner ses idoles. Et il s'est engagé pour le Seigneur. Mais ça fait longtemps que je prêche, Albert, ne m'en veux pas. Ça va, c'est que je suis assez en forme. Alors, je voudrais terminer. La troisième chose de votre chaise, elles sont stables, ces chaises-là. Oui. Oui. C'est la suite. C'est décider de servir Dieu. Alors, vous allez encore me dire, mais Luc, on sait ça depuis longtemps. Servir Dieu. Il ne nous apprend rien. Servir Dieu. Et dans notre Église, on sert beaucoup Dieu. Et dans notre Église, il y a beaucoup de modèles. L'Église de Thessalonique était devenue un modèle. Vous avez vu ça dans le texte d'un Thessalonicien ? Notre équipe pastorale est un modèle de dévouement. Est-ce que vous allez des fois remercier l'équipe pastorale parce qu'elle est un modèle ? Est-ce que nous remercions le groupe de louanges ? Est-ce que nous remercions les personnes qui s'occupent des deux petits-enfants qui sont là pour l'école du dimanche ? Ce sont des modèles. C'est beau. Alors, c'est parce que nous sommes une église de service. servir le Dieu vivant et vrai. C'est une authenticité par rapport à la conversion et à l'abandon des idoles. Jeanne d'Arc, ben, je pense quand même que vous connaissez Jeanne d'Arc. Elle a dit devant le roi, « Sire, Dieu premier servi. » Et il n'y avait plus rien à dire. C'est ce qu'elle a fait. Nous sommes heureux de servir Dieu. Nous servons le roi des rois. C'est pour moi un honneur inouï de servir Dieu. C'est un honneur de servir Dieu, même au travers de cette petite prédication ce matin. C'est pas moi que je sers, c'est Dieu, c'est le roi, c'est le Seigneur. Mais on peut servir Dieu de bien des manières, en faisant le ménage. C'est toujours Nicole, en fait, qui est responsable de l'organisation du ménage. Vous allez remercier Nicole, des fois. Servir Dieu de plein de façons. Servir Dieu dans nos réunions de prière. On le fait régulièrement chez les Fuchs et on le fait régulièrement chez Paulette et Jean. Ben, on sert Dieu, on ne peut pas faire autre chose que de prier. C'est un service, c'est un culte, c'est logique. Mais il y en a quelquefois parmi les chrétiens qui, petit à petit, sans qu'ils s'en rendent compte, desservent Dieu. Examinons-nous nous-mêmes. Servir le Dieu, pourquoi c'est écrit dans notre texte de Thessaloniciens, vivant et vrai? Pourquoi Paul dit vivant et vrai? Il pourrait dire Dieu, c'est tout. Pas parce qu'il est vivant, par Jésus-Christ ressuscité, parce qu'il est sensible. Il est vivant parce qu'il a créé les cieux et la terre. Il est vivant parce qu'il est sensible à chacun de nos cris. Il est vivant. Il répond. Il est merveilleux. Et il est vrai. Ben, il dit ça aussi. Il est vrai justement par rapport aux idoles, aux faux dieux. C'est pour ça qu'il ajoute « vivant et vrai ». Et Jésus est l'incarnation de ce Dieu vivant et vrai, qui a révélé cette grandeur de Dieu, son amour, sa justice, sa sainteté, sa puissance de résurrection. Le Saint-Esprit était si puissant qu'il a roulé la pierre du tombeau et Jésus est ressuscité. Vous rendez compte ? Il est vrai. Il est vrai, il n'y a pas d'incohérence entre ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Ce n'est pas le cas des faux dieux. Il est vrai parce qu'il dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie comment ? En abondance. » Tandis que les faux dieux ne donnent pas la vie, les idoles dans lesquelles nous risquons d'être repris, ils disent toujours « Donne, 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 donne. Absorbe. Absorbe le temps. Ils absorbent notre temps. Ils absorbent notre potentiel. C'est ça, les idoles. Ils nous tuent, les idoles. Il est vivant et vrai. Servons Dieu, comme les Thessaloniciens. Servir. Ça me renvoie de nouveau, je ne sais pas si tu vas pouvoir le mettre, ce texte, à Romains 12, 1 et 2, toujours dans la version dite de la semence, bonne semence. Voilà ce que dit Paul. À cause de cette immense bonté, hein, vous voyez le texte, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps. Est-ce que c'est offrir vos corps comme un sacrifice de mort? Oui ou non? C'est un sacrifice vivant. Le sacrifice de mort, il a été fait une fois pour toutes en Jésus-Christ. Nous lui offrons comme un sacrifice vivant. Nous servons Dieu. mais plus que ça, sacrifice saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable, comme c'est traduit, mais le mot grec, c'est logikos, qui pourrait être traduit par logique. Puisque Dieu en Jésus-Christ s'est offert comme un sacrifice de mort, en sacrifice de vivant, il est logique qu'il retourne l'ascenseur et que nous offrions à Dieu tout. Prends tout, Seigneur. Pas comme cette petite fille qui, en chantant « Prends tout, Seigneur », a ajouté toute petite voix « Sauf mon petit lapin ». Sacrifice vivant. Notre France a besoin de chrétiens qui donnent tout à Dieu. Elle a besoin de sacrifices vivants, de ceux qui se sont convertis et qui ont abandonné leur idole. Et j'en arrive au quatrième pied de votre chaise. Le vrai chrétien, ou plutôt je devrais dire le mot « vrai disciple de Jésus-Christ » parce que le mot « chrétien » ça ne veut plus rien dire. Il attend. Il attend des cieux le retour de Jésus. C'est exactement ce que faisaient les Thessaloniciens. Oui. Est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Ça, intellectuellement, on le sait par cœur. C'est écrit 318 fois qu'il va revenir dans les Écritures. Dans le temps, on avait beaucoup de chants. Excusez-moi, je suis un peu vieux, ringard. Il me revient dans ma tête tout le temps des chants des ailes de la foi, moi. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Est-ce qu'on les chante encore? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Disait la suite du strophe. Jésus revient. Il y a beaucoup de choses qui nous motivent. Hein. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a une dynamique chrétienne en nous. Par exemple, une fois, il y a eu une prédication de Luc sur la crainte de Dieu. C'est bien vrai, Luc. Ça nous motive quand même. Craindre Dieu, il nous regarde. Il est vénérable. Il nous regarde partout. Alors on se dit, mais s'il nous regarde, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Il connaît tout dans mon cœur. Mais il y a une autre chose qui est une dynamique aussi. C'est Jésus revient bientôt. C'est pareil. Es-tu prêt? Imaginez si Jésus revienne avant que je dise Amen. Je suis sûr que ce serait un Amen de votre part bien plus fort que le mien. Il peut revenir à tout instant. Quand on a posé la question à Jésus, quand, il répond lui-même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Un peu plus loin, dans ce même chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, verset 44, c'est pas grave si tu ne l'affiches pas. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Si vous avez quelqu'un qui vient faire une effraction dans votre maison, en général, il ne vous téléphone pas pour vous dire qu'il va venir à telle heure pour la faire. Nous avons dans notre village une sœur en Christ qui a été vraiment agressée dans ce domaine-là. Tellement agressée qu'elle ne pouvait plus dormir dans son lit, dans sa chambre. Et puis, comme ma sœur me téléphone de temps en temps, elle s'appelle Josette, elle habite à Marseille. 4 fois, elle a été comme ça victime de vol, de cambriolage. Ben depuis ce temps-là, je prie pour elle, que Dieu protège sa maison. Et les 4 fois, le voleur n'a pas averti Josette qu'elle allait être volée. Jésus revient, on ne sait pas quand. Il peut venir, comme c'est écrit dans un autre texte, je ne le lis pas celui-là, comme un voleur dans la nuit. C'est écrit, hein? Frères et sœurs, c'est ça qui m'attriste le plus. J'ai vraiment l'impression que l'Église aujourd'hui, l'Église moderne, n'attend pas vraiment le Seigneur Jésus. Pourtant, l'Apocalypse termine par ces paroles. Viens, Seigneur Jésus. L'Église et l'Esprit disent, viens, 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 Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, bien sûr, on voit ce qui se passe à la télévision, on voit tous ces phénomènes dramatiques. Et les bons chrétiens évangéliques disent, oh ben c'est la fin des temps. Oh, les bons chrétiens évangéliques disent ça. C'est pas étonnant, c'est la fin des temps. Mais pourquoi ne faudrait-il pas plutôt dire, mais Jésus est à la porte, il vient, viens. Bientôt le Seigneur va venir. C'était quand même la caractéristique de ces chrétiens de Thessalonique. Eh oui, quatre piliers qui faisaient qu'il y avait une pérennité, une solidité de leur foi, un dynamisme, qu'ils étaient connus partout, partout, en Asie mineure, en Grèce, en Achaïe, en Macédoine, comme on l'a vu tout à l'heure. Ils étaient des modèles les uns pour les autres et ils étaient une église modèle pour toutes les autres églises. Pas beau ça ? Quatre piliers. Et s'il manque un de ces piliers, ça veut dire que notre vie chrétienne, il manque quelque chose. Si c'est une demi-conversion, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Elle est trop exigeante. Si c'est qu'un 140 degrés de tour, la vie chrétienne, elle est exigeante. Porter sa croix, renoncer à soi-même, suivre Jésus. Si ce n'est pas un abandon complet des idoles, c'est qu'on va se faire bouffer quelque part, être freiné. Bien sûr. Si ce n'est pas prendre son temps, son argent, sa vie à offrir un culte à Dieu continuellement, comme un sacrifice vivant, il y a un vide. Et enfin, nous attendons Jésus. Tous les matins, levons-nous et pensons tout de suite, aujourd'hui, Jésus peut venir. Tout de suite. Moi, voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si j'ai bien dit ce que je devais dire. Tout le reste, ça appartient au Saint-Esprit de toute façon. Mais j'aime cette église de Thessalonique et je prie qu'au travers du CNEF en France, il y ait plein, plein, plein d'églises comme celle de Thessalonique. Vous savez qu'on a une grande variété d'églises. Hein? On a des méga-church jusqu'aux toutes petites églises. Peu importe la grandeur. On ne sait pas combien de membres il y avait dans cette église de Thessalonique. On n'en sait rien. Mais on sait une chose, c'est qu'ils étaient reconnus, qu'ils étaient célèbres partout à cause de cette conversion, de cet abandon des idoles, de ce service du Dieu vivant et de cette attente permanente de Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais à cœur de dire. C'est la parole de Dieu. Chacun en fait ce qu'il veut. On va prier. S'il y en a qui parmi nous ne sont pas certains d'être convertis, s'il y en a qui parmi nous ne sont pas sûrs d'avoir fait ce demi-tour à 180 degrés, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. S'il y en a qui, parmi nous, sentent qu'il y a des petites idoles encore qui prennent leur temps, ça peut être télé, smartphone, toutes sortes de choses qui prennent trop de temps, balancez tout ça. S'il y en a qui, parmi nous, peut-être sont addicts à d'autres choses, abandonnez. Et puis s'il y en a qui, parmi nous, ne savent pas trop quoi faire, mettez-vous au service de l'Église et du Dieu vivant. Et attendons Jésus. Prions maintenant. Seigneur Jésus, tu es le roi, tu es le maître, c'est toi qui décides tout. Tu nous montres par ta parole qu'il peut y avoir des églises qui sont des filles magnifiques pour toi. Cette église de Thessalonique est un modèle. Ils étaient des modèles les uns pour les autres, et l'église en tant que telle était un modèle pour toutes les autres églises de la région. Nous voulons, nous prions pour que nous aussi, à ce long cours, nous soyons une église modèle dans ce sens-là, actif dans l'amour, dans la persévérance, dans la foi. Et tu sais, les cœurs qui sont là, tu sais très bien où nous en sommes. Continue, Saint-Esprit, de nous parler gentiment, comme tu sais si bien le faire, pour que nous changions, nous changions. Continue, Saint-Esprit, à mettre le doigt sur nos idoles. Continue, Saint-Esprit, à mettre ta voix pour que nous ayons tel ou tel service à faire la gloire de ton nom. Saint-Esprit, insiste dans nos cœurs pour nous rappeler que Jésus, le Fils de Dieu, assis à la droite du Père, un jour va revenir. Et va revenir, c'est ce qu'espéraient ces Thessaloniciens, pour nous délivrer de la colère à venir. Parce qu'il va y avoir une colère de Dieu qui est toute proche. Mais l'Église sera enlevée, délivrée. Alléluia. Change nos cœurs, change nos vies. Aide-nous de nous repentir. Aide-nous dans la transparence. Fais ton œuvre. Père, nous prions au nom de Jésus. Amen.